Je ne me rappelle plus. Merci pour ce privilège. Ce matin, j'ai invité, puisqu'ils étaient en Suisse, Chantal et Blaise Mondras. Chantal est missionnaire suissesse de Juifs pour Jésus à Paris. Et j'aimerais bien que vous puissiez la rencontrer. Alors, avant la lecture que Pierre va nous apporter dans Acte chapitre 18, Chantal va monter, donner un petit témoignage. Merci d'accueillir Chantal et son mari Blaise.
Merci beaucoup. Alors, je suis vraiment très heureuse d'être dans cette paroisse-là. J'étais jamais venue dans une église à Neuchâtel et vraiment le cadre est idyllique. Vous avez vraiment de la chance. En région parisienne, on parlait tout à l'heure, on n'a pas ça. Alors oui, je vais vous raconter un peu comment je suis venue au Seigneur et qu'est-ce que ça a changé dans ma vie. Donc, il y a bientôt deux ans, je me suis mariée à Blaise Mondras qui est ici. Mais avant ça, j'ai vécu pendant 20 ans à Lausanne, donc c'est assez proche d'ici. Et ma mère a une maison familiale au Bayard, si vous connaissez. Donc on est là-bas quelques jours. Et je suis à la fois suissesse, comme l'a dit Steven, mais aussi israélienne, de par mon père. Et ça a été assez difficile de vivre avec ces deux identités, surtout que mon père est parti quand j'avais 1 an et demi en Israël, définitivement. Donc j'étais comme une enfant adoptée, j'avais juste une moitié de mon identité. Et même si ma maman n'est pas juive, elle est d'arrière-plan protestante, et elle nous a élevés aussi dans la religion chrétienne. Et elle n'était pas née de nouveau, donc elle nous emmenait dans une église avec ma sœur chaque dimanche, dans une église réformée, qui était assez froide, je n'y trouvais absolument pas ma place. Mais néanmoins, je croyais que Dieu existait. Ça m'a jamais quittée. Et je vais vous raconter une anecdote. J'avais peut-être 7 ans et je regardais le ciel qui était étoilé. Et je me suis dit, mais c'est pas croyable. Il doit y avoir un créateur derrière ces étoiles. C'est tellement beau. Et par la suite, j'ai pu voir que même en psaume disait ça, que les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Et cette pensée ne m'a jamais quittée. Mais comme je vous l'ai dit, mon père est israélien, juif, et du coup c'était difficile pour moi de le vivre dans ma scolarité. Je disais à personne que mon père était juif, enfin surtout israélien, parce que j'avais des camarades qui étaient d'arrière-plan musulman, et même arabes, qui étaient arabes, et du coup c'était difficile. Donc, j'en suis même venue à un point où j'ai demandé à Dieu pourquoi est-ce que mon père était israélien. Je ne le connaissais pas, on a repris contact que quand j'avais 13 ans. Et il m'a jamais répondu. J'aurais voulu qu'il soit peut-être italien ou espagnol. Ça aurait été plus simple dans ma vie. Mais bon, c'était autre chose. Et j'ai continué mon éducation chrétienne. J'ai fait le catéchisme. Et puis, à la fin de ce cursus, on faisait un camp. Et c'était pendant l'Ascension et on l'a fait au sud de la France. Et donc, il y avait d'autres jeunes qui avaient à peu près 15 ans, qui venaient d'autres églises de la région. Et là, j'ai vraiment rencontré des vrais chrétiens. J'en avais jamais rencontré auparavant, et ils étaient aimants. Voilà, c'était simplement sur leur visage un accueil que j'avais jamais vu. Et puis ils avaient cette paix en eux, cette confiance, même s'ils en étaient pas conscients, ils avaient ça en eux. Et j'étais jalouse parce que moi, j'avais rien de tout ça, et je cherchais mon identité profondément. Et donc, après ce camp, je les ai rejoints à leur groupe de jeunes, et tout ce que j'avais appris au sujet de Jésus, de manière intellectuelle, s'est petit à petit rentré dans mon cœur. Et quand j'ai, en 2007, le 1er janvier 2007, donc ça fait 9 ans, eh bien, j'ai donné ma vie complètement à Jésus. Mais il y avait une chose que je comprenais pas. C'est comment est-ce que Dieu pouvait m'aimer personnellement? Et vu que j'avais pas de père, c'était difficile pour moi cette notion de père. Père céleste. Et un jour, il s'est révélé à moi d'une manière vraiment extraordinaire. J'étais dans ma chambre, c'était le soir, et je n'arrivais pas à dormir. Et tout d'un coup, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Et ça a arrêté sur le souvenir de ma tendre enfance, le jour où mon père est parti en Israël, où j'avais 1 an et demi. Et là, c'était comme si on m'avait coupé en deux. C'était dur, c'était un traumatisme. Mais en même temps, j'ai entendu une voix intérieure. Et je sais que c'est Jésus qui me disait, je t'aime, je ne t'abandonnerai pas, et je suis là. Et là, j'ai compris que Dieu pouvait m'aimer parce que il savait, il connaissait ma vie dans les moindres détails, même dans les endroits les plus sombres de notre vie, il reste présent. Et il n'est pas indifférent à notre douleur. Et même si mon père m'a abandonné une première fois, eh bien, Dieu, lui, ne m'abandonnera pas. Et avec ça, j'avais ce fardeau de réconcilier ces deux identités que j'avais en moi, chrétien et juif, et parler de Jésus. Je voulais être en sorte d'être un pont entre ces deux héritages. Et 2 ans après, je me suis fait baptiser dans le lac Léman. C'était une journée merveilleuse. Mais le lendemain, j'ai eu mon père au téléphone qui l'a appris par accident. Et donc, quand on se voyait, depuis mes 13 ans, là, quand je me suis fait baptiser, j'avais 19 ans, eh bien, je lui parlais pas du tout de ma foi, parce que je savais qu'un juif, malheureusement, ne croit pas en Jésus. Et donc, j'évitais totalement le sujet. Je disais que je croyais en Dieu, mais ça s'arrêtait là. Et quand il a su ça, il m'a dit, mais qui t'a demandé de te faire baptiser? C'est ta mère? C'est l'Église? Tu sais, moi, j'ai lu le livre de Da Vinci Code, et je sais que l'Église, c'est une histoire de business. C'est une histoire d'argent, seulement. Et c'est trop fort pour moi. Tu sais, tu m'as fait comme une crise cardiaque. Et tu dois choisir. Soit c'est moi, soit c'est Jésus. Mais c'est pas les deux. Et voilà. Mon pire cauchemar s'était révélé vrai. Et j'étais paniquée, j'étais désespérée, je savais pas quoi faire. Et je suis pas fière de vous le dire aujourd'hui, mais j'ai choisi de lui mentir. Lui mentir parce que comme ça, je pouvais continuer d'aller au groupe de jeunes, de grandir dans ma foi en Suisse. Et lui, il savait rien, enfin pas trop, parce qu'il était en Israël. Mais il pouvait appeler à la maison. Et donc j'ai vécu pendant 2 ans dans la crainte, dans la peur que mon père sache la vérité. Et c'est pendant cette période que j'ai rencontré Juifs pour Jésus, et notamment Steven. Et moi, j'étais venue à cette... Donc ils étaient venus faire un gala en Suisse, et voilà... présenter leur mission, et moi je me suis dit, ah ben tiens, ils vont sûrement me donner des conseils pour vivre ça avec mon père. Et je me rappelle, on a prié avec Steven, on a juste prié pour mon père, et moi je m'attendais à plein de conseils, j'étais prêt à écrire tout ce qu'il fallait faire, mais non, on a prié, on a gardé le contact, et je savais que cette rencontre n'était pas anodine dans ma vie. Et ça s'est avéré vrai, parce qu'une année après, Josué, donc le directeur de Juifs pour Jésus en France, m'a invité à voir le travail missionnaire à Paris. Et pendant une semaine, eh bien, j'ai pu voir toute la facette, l'évangélisation. On a fait une étude biblique avec une femme juive qui avait survécu au camp de la Shoah. Et tout ça me parlait. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place. À la fin de la semaine, j'ai dit à Josué, il était assez surpris, je fais « Bon, ben je veux devenir missionnaire, je crois que j'ai trouvé ma place. » Et il m'a dit « Mais déjà ?» Et je dis « Oui, je crois que vraiment c'est ma place. » Et je voulais remettre les choses au clair par rapport à mon père, parce que la prochaine étape dans pour devenir missionnaire à Juifs pour Jésus, c'est une formation aux États-Unis. Donc il fallait quand même que je lui dise la vérité. Et je lui ai écrit une longue lettre en expliquant... voilà mes raisons, pourquoi je lui ai menti, que j'étais consciente que ça allait être la dernière fois peut-être qu'on allait être en contact, mais que je croyais réellement que Jésus était le Messie, que les prophètes ont annoncé, et que même si aujourd'hui ça devait me coûter ma relation avec mon père, j'en étais capable de le supporter. Et cette lettre, je l'ai envoyée, mais elle est restée sans réponse pendant 2 ans. C'était difficile. Mais j'ai demandé la prière à plusieurs frères et sœurs à travers le monde, et Dieu a commencé une œuvre dans le cœur de mon père. Pour vous dire, il y a 3 ans, on a eu une longue conversation au téléphone ensemble. Il m'a dit que je rejetais le judaïsme, mes racines, mais il était content de m'avoir au téléphone et je lui avais manqué. Et même s'il n'acceptait pas le fait que j'étais missionnaire, eh bien, voilà, je restais sa fille. Et par la suite, il est venu à notre mariage il y a 2 ans. Et on, voilà, on n'a pas fait dans une synagogue ni rien, mais on l'a invité. Il n'est pas venu dans l'église, mais au repas et à l'état civil avant. Et tous les deux, ma belle-mère et mon père, ont dit qu'ils avaient l'impression d'être dans une grande famille où ils sentaient l'amour de Dieu. Et donc, voilà, petit à petit, notre relation s'est restaurée et on a essayé de lui envoyer un Nouveau Testament à Noël. Mais malheureusement, il l'a refusé. Il a dit qu'il ne veut absolument rien avoir à faire avec Jésus, parce que Jésus, pour lui, c'est un traître. Et voilà, donc si vous pouvez prier pour mon père qui s'appelle Raphaël, qui veut dire Dieu guérit, je vous remercie énormément et je laisse la place à Steven. Merci beaucoup. Au revoir.
Alors, ce que Raphaël, son père, n'a pas encore compris, c'est qu'il n'y a rien de plus juif que de croire en Jésus. Le vrai juif, c'est celui qui reconnaît le Messie d'Israël, et c'est Chantal qui a reconnu la vérité, et son père pas encore. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de juifs pensent que croire en Jésus est une trahison de ses racines. Mais peut-être dans la lecture et puis la prédication ce matin, vous allez voir que la vérité est tout autre et que l'accomplissement des promesses pour Israël s'accomplisse en Jésus. Alors Pierre, si tu veux bien venir lire Acte 18.
Tout d'abord, je tiens à remercier beaucoup pour ce témoignage. Je te remercie infiniment. C'est vraiment très touchant, ça nous touche vraiment beaucoup. Merci. Alors, voilà, je lirai donc Acte 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux. Comme ils avaient le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait des Juifs et des Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'Esprit, ils attestaient aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais comme ils s'opposaient à lui et l'insultaient, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai avec les non-Juifs. » Il sortit de là et se rendit chez un dénommé Titus, Justus, un homme qui craignait Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul, ils crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul, dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais point, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi, pour te faire du mal. » En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il s'établit là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. Pendant que Gallion était gouverneur de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le conduisirent devant le tribunal en disant « Cet homme incite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi ». Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait d'une injustice ou d'une mauvaise action, je vous écouterai comme il convient, Juifs. Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces affaires. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous les Grecs s'emparèrent de Sosthène, le chef de la synagogue, et le frappèrent devant le tribunal sans que Gallion ne s'en soucie. Paul resta encore longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Cenchrée, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, où Paul laissa ses compagnons. Lui-même entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs, qui lui demandèrent de prolonger son séjour chez eux, mais il refusa et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la prochaine fête à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse en bateau, il débarqua à Césarée et monta à Jérusalem pour saluer l'Église, puis il descendit à Antioche. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, en fortifiant tous les disciples. Un juif originaire d'Alexandrie, du nom d'Apollos, était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voix du Seigneur, et plein de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaissait pas que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait aller en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Dès son arrivée, il se rendit par la grâce de Dieu très utile aux croyants. En effet, il réfutait avec force les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie.
Voilà un passage peut-être un peu long, mais je vous rappelle que dans la synagogue, la lecture chaque Shabbat, c'est à peu près 3 ou 4 chapitres et en hébreu. Alors, nous allons parcourir ensemble ce texte, Actes chapitre 18. Mais pour commencer, un peu de background. Il paraît que le mot background, c'est un bon mot français maintenant. C'est une affaire ici, pour commencer, une affaire entre juifs. On lit au début du chapitre que Paul rencontre un couple juif qui s'appelle Aquilas et sa femme Priscille, qui sont venus de Rome, bien qu'ils soient originaires du pont. Pont, sur le plan, c'est Istanbul, c'est le pont entre l'Europe et l'Asie, c'est le pont entre la Méditerranée et la mer Noire. Un couple juif originaire d'Istanbul, des juifs turcs, ça existe toujours aujourd'hui, qui travaillait, habitait à Rome et qui maintenant se trouve avec Paul à Corinthe en Grèce. C'est une histoire bien juive, avec nous un peuple qui ne cesse d'être poussé de chaque pays, repoussé. Et voilà qu'on lit aussi dans le chapitre que Paul a hâte finalement d'arriver à Jérusalem pour rencontrer les frères. En fait, ce couple, Priscilla et Aquilas, ont été expulsés, on lit dans le texte, par l'empereur Claude. Et en fait, l'empereur Claude, qui vivait dans la fin des années 40, il avait expulsé tous les Juifs de Rome. Et les Romains ne faisaient pas la part entre les Juifs messianiques, les Juifs pour Jésus, et les Juifs qui n'étaient pas pour Jésus. Ça faisait tout partie de la communauté juive. Un historien romain qui écrivait sur l'histoire de Rome au début du deuxième siècle, c'est-à-dire 70 ans plus tard, un historien qui s'appelle Suétone, écrivait que l'empereur Claude a expulsé tous les Juifs de Rome à cause d'émeutes dans la communauté juive provoquées par un certain Crestus. Et les historiens pensent que cette émeute Ce que je viens de dire était confidentiel, je voulais éteindre le micro. Mais vous voyez, c'était vraiment une affaire entre juifs, cet évangile, cette personne de Jésus-Christ. La question au début ne se posait pas, est-ce qu'on doit aller vers les juifs pour annoncer l'évangile? C'était évident que c'était une affaire entre juifs. Et on voit ça plus tard quand Gallion, le proconsul de Rome, qui est en fait le frère du célèbre philosophe Sénaque, qui était aussi le tuteur de l'empereur Néron. Et Gallion, le gouverneur de Achaïe, cette région du sud de Grèce qui comprend Corinthe et Athènes, eh bien, il a une réputation d'être un bon homme, un homme qui est juste, un homme qui est impartial, un homme droit. Et des Juifs qui sont fâchés avec Paul et les apôtres pour l'annonce de l'évangile, ils amènent Paul devant le tribunal et ils l'accusent d'amener une nouvelle religion. Et sachez qu'à l'époque, dans l'Empire romain, il n'y avait que quelques religions qui étaient acceptées, accréditées par l'empereur. Et le judaïsme était l'une de ces religions. Et qu'est-ce que Gallion, le proconsul, dit à la fin de l'audience? Il dit, effectivement, c'est une affaire entre juifs. Il s'agit, dit Gallion, de discussions sur votre loi. Je ne peux pas être juge de ces choses. Voilà une affaire entre juifs. Cela me rappelle une occasion, il n'y a pas longtemps, quand le journal Le Monde en France a publié un magazine sur l'état religieux de la France. C'était une édition spéciale et ils ont interviewé Juifs pour Jésus, ils ont publié un article et Juifs pour Jésus a fait partie de cette rubrique sur les religions en France et a été placé dans ce petit livret, non comme étant une religion ou une forme du christianisme, mais était sous la rubrique du judaïsme. Et j'ai trouvé très amusant. Il y a peut-être des chrétiens qui vont penser que nous sommes une secte et ne sait pas où placer les Juifs pour Jésus. Mais j'étais très content que Juifs pour Jésus était considéré par Le Monde, ces grands intellectuels français, comme un mouvement d'entre les Juifs. Parce que c'est comme cela que le mouvement a commencé il y a 2000 ans. Alors on voit très bien dans le texte ici, dans Acte 18, que Paul annonce l'évangile après être rendu à la synagogue. Il va parler aux Grecs, aux Corinthiens, et beaucoup de Corinthiens viennent au Seigneur aussi. Comme notre frère a lu, c'est en Christ que le mur de séparation entre Juifs et Grecs. Et sachez que bibliquement, vous ici, si vous n'êtes pas juif, vous êtes des Grecs. Mais je ne sais pas combien d'entre vous parlent le grec. Juif et non-juif, un en Christ. Mais voilà que les accusateurs juifs ne voulaient pas que Jésus et la religion que Paul prêchait soient considérés comme étant une des leurs. Et c'est le même combat aujourd'hui où les rabbins ne veulent pas considérer que Jésus puisse être leur Messie. Mais sachez que les rabbins ne représentent pas tous les Juifs. Et aussi sachez que certains rabbins se posent des questions sur Jésus. Je vous montre cette photo. C'est une photo ici en Suisse d'un rabbin et un pasteur. Alors j'aimerais que vous levez la main et vous me dites si vous pensez que le rabbin est à gauche sur la photo. Levez la main si vous pensez que le rabbin est à gauche. Quelques mains levées, alors levez la main encore. Quelques sur la gauche. Et maintenant, pour la droite, levez la main si vous pensez à droite. Alors, la majorité de vous, vous avez tort. Le pasteur est Stéphane à droite, le rabbin c'est Aaron à gauche. Je ne sais pas si je vous ai dit dans le passé, j'ai reçu un coup de téléphone d'un rabbin qui se prénomme Aaron. Il a dit qu'il voulait discuter avec moi et qu'il voulait inviter des juifs messianiques à une conférence religieuse entre juifs, afin qu'entre juifs, on puisse discuter de différentes opinions religieuses. Quand il m'a dit cela au téléphone et qu'il était rabbin, j'ai supposé qu'il était un rabbin libéral, c'est-à-dire la synagogue libérale accepte les femmes, accepte un peu n'importe quoi, croit même pas en la Bible, accepte tout et tout le monde. Et j'ai dit, vous êtes rabbin libéral. Il a dit, non, je suis rabbin orthodoxe. Et j'ai dit, dans ce cas-là, vous n'avez pas de synagogue, je suppose. Vous êtes un rabbin sans avoir votre paroisse, si je peux dire, votre synagogue. Il a dit, non, je suis le rabbin de tel et tel endroit ici en Suisse. J'avais du mal à le croire. Alors j'ai dit, excusez-moi, monsieur le rabbin, mais je suis très occupé. Est-ce que je peux vous rappeler dans un quart d'heure? Il a dit oui, sans problème, il me donne son téléphone. Pendant ce quart d'heure, je cherche sur l'internet son nom, Aaron Müller, pour voir s'il est bien authentique, si son numéro de téléphone est authentique. Tout est vrai, et voilà ce rabbin orthodoxe qui me contacte parce qu'il se pose des questions. Qui est le pasteur? Eh bien, Stephen Denker est un pasteur d'une église Action Biblique à Zurich. Et il a à cœur les Juifs. Son église, c'est dans un quartier de Zurich où il y a beaucoup de Juifs orthodoxes. Et voilà que Stephen a à cœur avec sa femme et dans l'église pour toucher les Juifs afin d'annoncer l'Évangile. Et quand Stephen a su que je connaissais ce rabbin, il m'a demandé s'il pouvait venir à la synagogue assister par intérêt. Et moi j'ai dit, j'allais demander au rabbin, mais je ne pensais pas qu'il y aurait de problème. Le rabbin était ravi d'avoir un pasteur qui venait. Et je dois vous dire, quand le rabbin a vu le pasteur entrer à la synagogue, il a presque évanoui en pensant, mais ce pasteur est un rabbin. Et c'est moi qui ai remarqué seulement après l'office comment les deux étaient habillés. Pur hasard, habillés les deux, et on voit pas la différence entre ce rabbin et le pasteur. Mais ce rabbin a bien compris que la vraie question, est-ce que Jésus est venu, comme il a dit lui-même, non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Alors, vous avez lu en verset 17, nous avons entendu, je saute un peu, dans verset 17, que après que Paul est amené devant Gallion, Gallion les laisse partir en disant, moi j'ai pas à les accuser de quelque chose, et nous lisons verset 17, alors tous les Grecs, certaines traductions disent simplement tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Gallion s'en mette en peine. Alors ce Gallion qui avait la réputation d'être un homme intègre et juste, il paraît qu'il s'en fichait complètement qu'on se batte avec des Juifs qui venaient de quitter son tribunal. Parce qu'il pensait simplement, c'est une affaire entre Juifs, qu'on les laisse se débrouiller entre eux. Et si, comme les plus anciens manuscrits disent que c'était les Grecs qui ont battu les Juifs et le chef de la synagogue, ça montre que la communauté juive, là, à Corinthe, n'était pas très bien acceptée par le monde grec. Cela me rappelle une occasion, il y a plusieurs années, Alors, ce n'est pas tout à fait avant que Chantal était née, mais il y a à peu près 10 à 15 ans de cela, quand j'étais encore responsable de la mission à Paris, eh bien, notre bureau a été saccagé par un tout petit groupe de jeunes juifs qui étaient convaincus que notre action était dangereuse pour les juifs. Ils ont cassé la porte, ils sont venus avec des barres en métal, ils ont tagué les murs, ils ont cassé les ordinateurs. En réalité, la communauté juive à Paris était choquée par leur action et ça nous a donné l'occasion de présenter la mission à la radio juive. Alors le Seigneur s'est servi de cette occasion. Mais voilà que la police a dû venir pour faire enquête et nous avons souhaité qu'au moins ces jeunes juifs qui étaient là puissent être repris et peut-être jugés pour leur action. Et la police a traîné et ne semblait rien faire. Et un jour, un inspecteur chrétien, frère chrétien, qui était haut placé, est allé à l'arrondissement, à la police locale, pour dire bonjour, mais en réalité, pour demander ce que se passait dans le procès, l'action, pour trouver les jeunes coupables. Et un inspecteur de la police dans ce poste, dans le 12e arrondissement, a dit à ce chrétien, bon, il ne savait pas qu'il était chrétien, qu'il nous connaissait, il a dit simplement, laissons, c'est une affaire entre juifs. J'étais pas si mécontent que cela, parce qu'il y a un changement dans l'esprit juif. De plus en plus, on commence à se poser la question, à force qu'il y a plus de juifs messianiques, plus de chrétiens qui témoignent que Jésus est le Messie, des juifs se posent la question, est-ce que Jésus est le Messie ? Et voilà que nous lisons en verset 4 que à la synagogue à Corinthe, Paul discourt dans la synagogue, il discourait dans la synagogue chaque Shabbat. Et le mot en grec, c'est pas simplement un discours, c'est le mot dialectique, d'où on a le mot dialectique. Ça veut dire qu'il argumentait. Et il a fait cela chaque Shabbat. On lit plus tard dans le chapitre qu'il était bien reçu à Éphèse, où pendant 3 mois, il a persuadé, il a argumenté. Et dans ce texte, verset 4, Paul discourait dans la synagogue et il persuadait des Juifs et des Grecs. Pourquoi des Grecs ? Eh bien, certains Grecs cherchaient à connaître le Dieu monothéiste, le Dieu unique. Il n'y avait pas d'autres religions monothéistes à l'époque. Ceux qui cherchaient Dieu, ils allaient vers les Juifs qui louaient un seul Dieu créateur. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que pour que les gens viennent au Christ, il y a besoin de débattre, il y a besoin d'argumenter, il y a besoin de persuader. Je me rappelle un jour quand j'étais dans une église à Mulhouse, en France, où il y avait pas mal une communauté juive assez importante, la femme du pasteur, pendant le déjeuner, a dit « Nous, on s'intéressera aux juifs une fois qu'eux, ils viennent à l'église. » Mais la réalité, c'est que les non-chrétiens en général, que ce soit juifs, musulmans, protestants, athées, catholiques, généralement ne viennent pas à l'église. Comme l'a fait le père à Chantal, lors de leur mariage, il n'a pas mis ses pieds dans l'église. C'est à nous d'aller vers eux. C'est toujours à nous, le chrétien, d'aller vers celui qui ne croit pas. Alors j'aimerais conclure avec quelques propos, quelques pensées pratiques pour nous. Premièrement, j'aimerais dire que c'est important que nous soyons dirigés par le Seigneur. Paul est allé à la synagogue à Éphèse. On lit dans chapitre 19 qu'il a passé 3 mois à la synagogue à Éphèse. Il était bien reçu, il a discuté avec eux. Mais dans chapitre 16, il voulait se rendre à Éphèse, qui était la ville principale de la région de Asie. Et on lit dans chapitre 16 que l'Esprit Saint l'a empêché d'aller à Asie. Et puis au verset 18, ce chapitre qui a été lu, au verset 19, Paul et ses compagnons, Priscille et Aquilas, arrivent à Éphèse. Il laisse ses compagnons, il entre dans la synagogue, il s'entretient avec la communauté de la synagogue et la communauté prie Paul de rester, de prolonger sa visite. Et qu'est-ce que Paul dit ? Il dit « Non, je dois me rendre à Jérusalem ». Et moi je me suis dit, si moi j'avais une occasion d'aller à la synagogue, n'importe où, et on m'invitait à rester pour prolonger ma visite, pour discuter, j'aurais beaucoup de mal à dire « Non, je dois partir, vous laisser pour me rendre à tel et tel endroit ». Paul lui-même avait essayé d'aller à Éphèse 2 chapitres avant et l'Esprit Saint l'a empêché. Maintenant, il se trouve à Éphèse dans la synagogue, il y a porte ouverte et il dit « Non, c'est pas le moment ». Et on lit en chapitre 19 que Dieu le conduit à rester 3 mois lors d'une visite ultérieure. C'est-à-dire, il y a de bonnes choses qui peuvent être, sembler bien, mais ce n'est pas nécessairement ce que le Seigneur veut. Nous pourrions prier les uns pour les autres que nous soyons vraiment conduits par l'Esprit Saint. Avec tous les choix que nous ayons, nous avons dans la vie de pouvoir faire les bons choix. Et les bons choix, ce n'est pas toujours une chose qui paraît bien, c'est la chose que le Seigneur veut pour nous. Alors mon premier point, c'est soyons dirigés par le Seigneur. Deuxièmement, soyons consacrés au Seigneur. Paul montre sa consécration à l'Éternel en faisant un rite juif qui se trouve dans l'Ancien Testament. Ça s'appelle le vœu du Naziriat. C'est un vœu où tu consacres à l'Éternel, tu fais un vœu, et pendant une période, tu ne coupes pas les cheveux et tu ne manges plus de produits de la vigne. Ici, Paul, bien qu'il soit en Christ, il n'a pas abandonné la loi. Il se voit toujours en tant que bon juif et il prend ce vœu devant le Seigneur et il veut se rendre à Jérusalem. Mais ce vœu de ne pas couper les cheveux, il le fait à Corinthe. Pourquoi est-ce qu'il fait ce vœu ? On lit simplement qu'à la fin de sa visite à Corinthe, il se fait couper les cheveux, c'était à Sancheré qui est le port de la ville de Corinthe. Ça marque la fin de son vœu. Et peut-être le vœu est provoqué, un vœu de consécration, par la parole qu'il a reçue du Seigneur. Et nous lisons en verset 9 la détresse que Paul éprouve lors de l'opposition qui fait face à Corinthe. Verset 9, « Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et peut-être c'est à ce moment-là que Paul se consacre à l'Éternel en faisant un vœu de Naziriat. Mais en tout cas, il s'engage davantage à rester à Corinthe et on lit par la suite qu'il est resté 18 mois de plus pour enseigner. Alors, je me suis dit, quel était le métier de Paul ? Quel était son travail ? Vous le savez, Il était fabricant de tentes. C'est dit ici dans ces premiers versets. Combien est-ce qu'il gagnait? Combien d'heures par semaine est-ce qu'il travaillait? Qui étaient ses clients? Où habitaient ses clients? Est-ce qu'il avait des employés? Comment est-ce qu'il trouvait son travail? La réponse, c'est qu'on ne sait pas. On ne connaît rien de ces choses, mais c'était son métier. Mais pour Paul, ce n'était pas sa carrière. Sa carrière, c'était d'être un ambassadeur pour Christ. C'était de servir le Seigneur. Et son métier était un simple vaisseau pour lui permettre de œuvrer pour le Seigneur. Et c'est aussi un appel pour chacun de nous de ne pas faire de notre famille, de notre travail, de notre conjoint un idole, parce que nous sommes là pour servir le Seigneur. Tout ce qu'il nous donne dans le travail, dans les études, à l'école, à la maison, au travail, ce sont pour nous aider à servir le Seigneur. Et peut-être nous avons nous-mêmes à ne plus voir le travail comme une carrière, mais simplement une occasion de pouvoir être un témoin pour le Seigneur. Que notre vie est essentiellement pour construire le royaume de Dieu. Et pour conclure, il y a cette rassurance pour Paul et une rassurance pour nous que le Seigneur est avec nous. Est-ce qu'on peut vraiment croire que Paul avait besoin de rassurance du Seigneur qui lui dit « ne crains point ». Paul, cet apôtre qui semble sans crainte, qui va partout pour annoncer l'Évangile, qui est fouetté, emprisonné, lapidé, il chavire, il est presque noyé, il éprouve toutes sortes de souffrances pour le Seigneur, et le Seigneur lui dit ici, ne crains point, mais parle. Et c'est une parole pour nous aussi. Souvent on me pose la question, pourquoi y a-t-il tellement peu de Juifs qui croient en Jésus? Et en Angleterre, je répondais, pourquoi y a-t-il, moi je suis britannique, pourquoi, ici en Angleterre, y a-t-il tellement peu d'Anglais qui croient en Jésus? Et on pourrait dire ici en Suisse, pourquoi y a-t-il tellement peu de Suisses qui sont engagés pour le Seigneur? Et peut-être une des raisons, c'est la crainte de notre part, la crainte de parler du Seigneur. Peut-être une autre chose, c'est qu'on attend que les gens viennent vers nous. Et je pense qu'il y a une partie de la culture britannique dans laquelle j'ai grandi qui se rapproche un peu de la culture suisse. Nous sommes assez réservés et on se garde chez nous. Et je pense culturellement, nous avons ici en Suisse à faire des efforts supplémentaires pour aller vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais le Seigneur a dit à Paul, et il le dit à chacun de nous, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point. » Alors je vais prier maintenant. Seigneur, merci que nous sommes tes ambassadeurs. Merci Seigneur que c'est toi qui es le Tout-Puissant. C'est toi qui, à travers des paroles de faiblesse, qui agis avec puissance. Merci Seigneur que nous sommes des vases d'argile, mais que tu es le Tout-Puissant et que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est à l'œuvre dans nos vies. Seigneur, je te prie de bénir l'Église ici, d'encourager l'Église, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais juste conclure en disant Chantal, vous avez entendu sa crainte pour dire à son père qu'elle était croyante en Jésus, et puis qu'elle était prête, quelques années plus tard, à la rupture qui a suivi. Le Seigneur est à l'œuvre dans sa famille. Si vous avez à cœur de soutenir une jeune missionnaire, je vous dis honnêtement, Chantal a besoin de trouver du soutien dans la prière, et aussi si le Seigneur vous met à cœur un soutien financier, vous pourriez venir la voir ou me voir si vous avez à cœur cela. Elle travaille à Paris, une ville où il y a la plus grande population de juifs en Europe. Il y a 350 000 juifs à Paris, et l'œuvre qu'ils font à Paris est une œuvre merveilleuse. Si vous ne recevez pas la lettre de nouvelles encore, je vous encourage à venir à la table de librairie et de vous inscrire pour notre lettre de nouvelles. Merci.